Bonjour à tous, on est content de vous retrouver sur Génération Geek pour vous parler de la culture geek comme chaque semaine et vulgariser cette culture, permettre au plus grand nombre finalement de la découvrir, de l'apprécier, d'en apprécier toutes les saveurs, toutes les tonalités, qu'on soit sur Terre ou bien même dans l'espace. Et dans l'espace, on va y aller avec cette émission consacrée aux Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, c'est le film Marvel de ce printemps, le film qui est en train de sortir, qui sort au cinéma voilà, en ce moment. Un film que vous pourrez peut-être aller voir avec vos enfants. On en parlera dans quelques instants avec Marjorie et Eva. Salut Marjorie, salut Eva. Alors oui, je vous dis salut, mais j'allume pas vos micros, c'est la blague habituelle, c'est-à-dire que je fais cette émission presque tout seul. Voilà, vous êtes
le
là, pardon.
Le macho, quoi.
Non, mais voilà, j'ai ripé pour une fois, je suis à la technique et du coup, voilà, j'ai oublié qu'il fallait que je fasse des trucs aussi en même temps. Comment allez-vous ?
Eh ben, ça va très bien.
Oh ben oui, tout pareil.
Alors Eva, Marjorie, avez-vous vu déjà, puisque c'est les Gardiens de la Galaxie volume 2 qui sort ce printemps au cinéma, là, dans les jours à venir ou dans les jours qui sont venus, ça dépend si vous l'avez vu en avant-première ou pas, ça dépend finalement à quel moment vous écoutez cette émission. Les Gardiens de la Galaxie, c'est le volume 2, donc il y a eu un volume 1. Avez-vous vu, mesdames, le volume 1, le premier épisode ?
Eh bien moi j'aurais bien voulu le voir au cinéma, mais j'ai eu un petit pépin de parcours, mais j'ai eu le plaisir de le revoir après.
Alors je crois qu'on en a déjà parlé, on va voilà,
c'est la blague
ouvrir
récurrente.
Complètement, c'est la blague récurrente. Il se trouve qu'on devait aller le voir ensemble et qu'on s'était un peu planté de séance et que du coup on a dû se retrouver à aller voir Expendables 3, ce qui on peut vous le dire est pas foufou comme film par rapport au Gardien de la Galaxie. Mais néanmoins, on a fini par le voir en DVD. C'était plutôt très sympathique. Eva, toi, tu l'as vu au cinéma ou tu l'as vu après ?
Non, j'ai été le voir au cinéma.
T'as pas raté ta séance, toi ?
Non, ça va.
Bon. Qu'est-ce que t'en as pensé des Gardiens de la Galaxie volume 1 ? On est sur un univers qui est un univers Marvel. Hein. C'est voilà, un film qui est bien étiqueté comme tel. Mais on n'est pas dans le cadre habituel des films de super-héros avec des héros qu'on connaît bien, comme les X-Men, comme Iron Man, comme Hulk, voire comme Spider-Man, enfin voilà, tous ces héros-là, on est sur des héros qui sont finalement un peu inconnus du grand public et qui sont devenus connus grâce à ce film-là notamment. Alors quel était ton a priori en allant voir le volume 1 déjà ?
Alors ce que j'avais apprécié, moi, c'était la bande-annonce hein, que j'avais vue au préalable, et le fait en fait qu'on se retrouve avec, contrairement à pas mal de héros différents, une équipe en fait qui ne s'entend absolument pas les uns avec les autres. C'était le côté humoristique où justement ils se prennent la tête constamment, ils sont jamais du même avis, mais au final ils arrivent quand même à faire du bon boulot, quoi.
Ça t'a pas rebuté, toi, d'aller voir un film avec des héros j'allais dire inconnus, moins connus en tout cas voilà, on en parlait, hein, les X-Men, Avengers, Spider-Man?
Non, parce que justement c'était le côté découverte, c'est un peu bien de changer de héros de temps en temps, voilà. Puis bon, ça a donné du bon, donc autant en profiter.
Et toi Marjorie, Expendables 3, alors c'était sympa. Non, je plaisante évidemment. Les Gardiens de la Galaxie, quand tu l'as finalement découvert, voilà, qu'est-ce qui te donnait envie d'y aller et quel a été un peu ton ressenti sur ce premier film ?
En fait, pour une fois, c'était pas les héros habituels, hein, donc c'était rafraîchissant. Enfin, clairement, sur l'envie d'aller voir le film, déjà, on savait qu'on n'allait pas voir quelque chose qu'on avait quand même déjà vu, même si tous les Avengers ne se ressemblent pas forcément. Et il y avait aussi ce côté, oui, très humoristique que n'avaient peut-être pas forcément les autres films de l'écurie Marvel, en tout cas depuis la genèse de 2008. Donc voilà, vraiment des héros qui se prennent pas au sérieux. Enfin, clairement, on jurerait pas en regardant la bande-annonce que ce sont des héros, en fait. Ils n'en ont absolument pas l'air, ni dans leur manière d'être, ni dans leur manière de se parler entre eux. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas, franchement.
Alors, c'est vrai que dans la tonalité un petit peu des films Marvel, si vous êtes fan voilà, de l'univers cinématographique Marvel, on n'est pas très très loin de Deadpool, en fait, finalement, sur le ton un petit peu décalé, on va moins loin. C'est-à-dire que c'est effectivement un film qui peut se regarder en famille, peut-être pas avec les très jeunes, mais en tout cas en famille, mais on est sur un ton un peu décalé et humoristique. On est clairement sur un ton un peu plus décalé, un peu plus drôle, qu'un Avenger ou qu'un X-Men. Moi, je l'aurais bien rapproché sur le ton, en tout cas, du film, avec le film Ant-Man, où le super-héros, c'est effectivement un anti-héros, c'est-à-dire qu'un homme fourmi, qu'un cambrioleur. Et je trouve qu'en termes de ton, on est plutôt assez proche. Qu'est-ce que tu en penses, Eva ?
Excusez-moi. Alors oui, effectivement, justement, j'allais rebondir sur Deadpool, qui au final n'est pas un héros, puisqu'il le dit lui-même, mais donc un anti-héros. Après, on peut se poser la question du... Est-ce que c'est... Enfin, l'équipe de Gardiens de la Galaxie, ça reste quand même des super-héros, alors que Deadpool, pas du tout.
Alors après, moi, j'étais vraiment sur... Mais j'entends, hein, la remarque. J'étais vraiment sur le ton du film et cette question de l'humour. Parce qu'effectivement, voilà, aucun des films Marvel n'est très ou trop sérieux. Peut-être, voilà, sur Wolverine, on peut arriver avec des passages un peu plus tragiques, voilà, sur le ton du drame. Là, effectivement, que ce soit Ant-Man ou le Gardien de la Galaxie, on est sur un ton plus léger.
Iron Man est assez... En fait, si on prend tous les Marvel, Iron Man est celui qui est le plus neutre parmi tous, puisqu'il est à la fois très sérieux et très drôle. Donc, on est un peu à cheval. Captain America, bon, il est sérieux. Enfin, voilà, c'est le mec sérieux, le mec qui fait son taf, il n'y a pas de problème. Hulk, bah, avec ses problèmes de colère, il est plutôt pas trop porté sur la dérision. Faudrait pas réveiller la grosse bête.
Dans tous ces films-là, même dans Wolverine, qui est quand même plutôt souvent de l'ordre du drame, il y a toujours des petites touches d'humour. C'est ce qui est en partie la marque de fabrique des comics, mais qui est vraiment cette marque de fabrique aussi Marvel. Peut-être que c'est dans les X-Men, notamment les derniers X-Men, où il y a un peu moins d'humour. Encore que, voilà, on en trouve des petites touches. En revanche, sur les Gardiens de la Galaxie, en tout cas le premier, on a vraiment une dose d'humour qui est très très présente. Et là où l'humour vient se rajouter au récit sur les autres, là finalement c'est le drame qui vient se rajouter au récit dans Gardiens de la Galaxie. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur quelque chose qui est presque de l'ordre de la comédie. Et puis de temps en temps, il y a un éclair un peu dramatique qui donne de la profondeur au récit, là où finalement l'humour donnait de la légèreté dans les autres récits. Voilà, ça c'est juste pour, si vous avez juste regardé les films et que vous voulez placer un petit peu le ton des Gardiens de la Galaxie. En tout cas, moi je trouve ça assez intéressant. Il y a une semaine, on parlait d'Alexandre Astier, de sa façon de gérer l'humour, en fait, et ce rapport entre le tragique et le drôle. Les Gardiens de la Galaxie est un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que l'humour n'est pas juste là pour faire hurler de rire les gens, il est aussi en partie au service finalement de la narration. Et il y a un vrai équilibre entre drame et narration et l'humour. Alors bon, ça c'était pour la partie vraiment, vraiment ciné. On le disait, les comics des Gardiens de la Galaxie ne sont pas très connus. On est habitué à, dans l'univers Marvel, alors, à avoir la Terre. Et on a l'impression que tout se passe ou presque sur Terre. Après, quand on lit un peu plus les comics, on se rend compte que ils vont finalement vachement souvent dans l'espace parce qu'il y a des envahisseurs extraterrestres souvent. Alors il y a les Kree, il y a les Skrulls, enfin voilà, qui sont des peuples qui soit veulent envahir la Terre, soit font d'autres trucs dans l'univers. Et donc on se retrouve avec parfois Iron Man qui prend un vaisseau spatial avec son pote Hulk et son pote Captain America, qui mettent des combis, alors plus ou moins des combis spatiales d'ailleurs, parce que ça dépend en fait un peu des circonstances, et puis qui vont chagner contre des extraterrestres dans l'espace. Ça arrive assez régulièrement. Il y a aussi la bande-annonce de Thor qui est sortie très récemment au cinéma, et on voit Thor qui est sur une autre planète avec un Hulk qui est gladiateur. Là aussi, c'est un truc qui se passe dans l'espace. Et donc, on ne le voit pas au cinéma actuellement, on ne l'a pas vu au cinéma, mais dans les comics, effectivement, les super-héros qu'on connaît bien ont tendance à partir dans l'espace. Là, on est dans l'espace, a priori dans le même univers plus ou moins que la Terre d'où viennent nos super-héros, mais on a vraiment l'impression que c'est pas deux univers qui sont collés ou qui sont proches. En tout cas, ça pourrait être complètement un autre univers. C'est un peu ce qu'on ressent, on voit pas de lien.
Non, et puis c'est un peu le problème avec les héros Marvel, c'est qu'ils sont pas tous humains déjà, et ils sont... Oui, ils viennent pas tous de la Terre, en fait. Je rappelle que Thor, c'est un dieu, quand même.
Ah oui, c'est même lui, pas que de la Terre, c'est un autre plan d'existence.
Il vient même pas d'une autre planète. Il vient d'une autre dimension. Parce que Asgard...
Ah ouais, la cosmogonie, hein, voilà. c'est le mot. Et un peu compliqué sur Marvel, parce qu'il y a la Terre, Donc c'est la dimension de la Terre. Alors j'ai plus le numéro, Ludovic était là, nous donne un petit coup de main sur le numéro de la Terre, Terre 66 ou Terre 41, je sais plus, un truc comme ça, mais c'est la Terre dans laquelle vivent nos super-héros. Mais il existe d'autres dimensions avec d'autres Terres. Les quatre fantastiques, notamment avec Mister Fantastique, l'homme élastique et ses trois comparses, du coup, ont l'habitude de faire des portails temporels et de visiter d'autres univers. Alors d'autres dimensions, pardon, soyons précis. Alors, par exemple, dans l'univers qu'on connaît avec nos héros Marvel, Spider-Man est un homme. Et bien, dans une autre dimension, Spider-Man est une femme. Donc voilà, ça fait des univers. Donc c'est Spider-Woman, du coup, mais c'est des dimensions parallèles.
Ça permet à Marvel d'étoffer toutes les aventures que peuvent vivre leurs héros, parce que plus il y a de monde, plus il y a de dimensions, plus il y a de pans d'existence différents, plus finalement on a de recours scénaristiques au cas où on aurait une panne d'inspiration.
Mais ça complique vachement pour comprendre quand même. Donc ça, c'est des dimensions, c'est-à-dire que c'est des terres dans des dimensions différentes. Il y a même la dimension négative, enfin voilà, il y a des trucs un peu bizarres. Ensuite, il y a plus ou moins les plans d'existence. Donc là, effectivement, c'est le royaume de Thor qui est un Asgard, et Midgard est un autre plan d'existence. Donc c'est, en gros, c'est la Terre et ses différents paradis ou enfer. Et ça dépend en plus des mythologies, parce que vous doutez bien que dans la mythologie nordienne, il y a Thor, mais il y a aussi un Hercule qui existe dans Marvel. Alors d'où est-ce qu'il vient, le Hercule? Voilà, c'est une autre affaire. Donc ça, c'est les différents plans d'existence. Et puis après, il y a la vastitude, je suis pas sûr que ça existe ce mot-là, de la galaxie. Et a priori, nos gardiens de la galaxie, en tout cas dans l'univers cinématographique Marvel, ne rencontrent pas Iron Man, Captain America, Spider-Man, etc. Je ne sais pas si dans les comics il y a un lien, j'en suis pas sûr.
Alors il y a un lien dans les comics parce que, alors faut savoir que les comics, déjà il y a deux gardiens de la galaxie. Il y a deux pans de l'histoire. Il y a celle écrite en 1969. Donc qui est avec une première équipe de gardiens de la galaxie qu'on ne connaît pas, puisque on ne les voit pas au cinéma. Et il y a une nouvelle équipe qui déboule en 2008, à partir de 2008, avec les personnages qu'on connaît, comme Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot et Gamora. Donc déjà. Et
il faut dire que Star-Lord vient de la Terre.
Donc, non, là, le souci, c'est que j'ai totalement oublié le début de ma phrase.
Tu cherchais le lien, effectivement, entre les super-héros qu'on connaît et puis les gardiens de la galaxie. Mais tu ne l'as pas retrouvé. Ah, c'est parce qu'en fait, en partie, dans les premières équipes des gardiens de la galaxie, il y avait des héros qui venaient de la Terre.
C'est ça, voilà. Et du coup...
Si tu veux, je suis là pour ça.
Magnifique. Et du coup, la première équipe, elle, a fait équipe avec des Vengeurs, notamment Spider-Man, notamment Iron Man ou encore La Chose. La Chose qui est le quatrième élément des Quatre Fantastiques. Et en fait, dans l'équipe de 2008, il peut arriver que La Chose soit en équipe avec Star-Lord, Rocket Raccoon, etc. En fait, il y a des liens. Sauf qu'au cinéma, ils ont décidé pour ce film-là, Les Gardiens de la Galaxie volume 1, de ne pas faire de lien, justement. Et d'ailleurs, c'est le premier film Marvel à ne faire aucun lien avec des personnages des Vengeurs.
Comprenez bien la différence. C'est-à-dire qu'on vous parle en même temps de l'univers cinématographique et puis de ce qu'il y a dans les comic books qui, effectivement, racontent des histoires beaucoup plus longues. Enfin...
Alors, je rappuie sur le fait quand même qu'il y a certainement un lien avec... On le sait tous, les pierres d'infinité dont on entend parler dans l'histoire quand même.
Alors, les pierres d'infinité, oulala, ça va être compliqué de vous expliquer tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause musicale. Et effectivement, s'il n'y a pas de lien entre les personnages, il y a des liens entre certains objets, notamment cette fameuse pierre d'infinité. Une particularité aussi des gardiens de la galaxie, je vais arriver à le dire en entier sans manger à la moitié de ma phrase.
Au cinéma,
c'est qu'il notre le héros principal, Star-Lord, Peter Quill, a eu une cassette audio par sa maman dans les années 80-90 avec plein de chansons tout à fait modernes et qui les écoute en boucle dans son vaisseau. Donc on s'est dit que pour cette émission, nous aussi, on allait écouter de la musique tout à fait récente. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, honey I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go, when you're feeling down, if you're all alone, when the pretty birds have flown, honey I'm still free, take a chance on me. Take a chance on me. De retour dans Génération Geek, on parle des Gardiens de la Galaxie et de cette bande originale. Alors, c'est pas ce qu'on vous passe tout de suite, mais il y a beaucoup de musique un peu disco. Et là, c'était Take a Chance on Me, voilà, avec mon accent absolument improbable. C'était ABBA, voilà, donc c'est pas tout tout récent quand même. Alors, mesdames, on va parler de deux choses pour la fin de cette émission. On en a parlé un petit peu tout à l'heure des Pierres d'Infinité, qui font le lien entre les différents films Marvel. Mais avant ça, j'aimerais vraiment qu'on présente les différents personnages des Gardiens de la Galaxie, parce qu'ils sont hauts en couleur tous et ils sont assez étranges. Et si vous débarquez pour aller voir effectivement le 2 au cinéma dans la semaine, vous serez bien embêté de comprendre un peu qui est qui, quels sont leurs pouvoirs, quels sont leurs caractères, d'où ils viennent, etc. Alors, on ne sait pas forcément tout sur tous, mais on a quelques petites choses quand même à raconter. Alors, on va commencer par toi, Eva. Je te propose de nous parler un petit peu du beau Peter Quill, alias Star-Lord.
On peut dire que c'est un aventurier très chanceux, en fait. Il mise tout sur vraiment le dernier instant, la petite touche qui va vraiment lui sauver la vie, parce qu'au final, c'est plus de la chance, en fait, que des super-pouvoirs.
Il fait tout à l'impro, il a grave du bol.
Ouais, c'est ça.
Il n'a pas de plan en tête.
C'est ça.
C'est toujours le plan B.
Mais ça lui réussit bien.
Oui, d'ailleurs, ça me rappelle un autre, qui n'a rien à voir avec les Marvel ou quoi. Ça me rappelle Jack Sparrow, qui a toujours de la chance, en fait, dans tout ce qu'il fait, au final. Alors, improvise à fond.
On avait fait une émission un peu là-dessus, il y a 2 ans. C'était sur le pulp. Et dans le pulp, il y a beaucoup de héros comme ça qui n'ont pas de pouvoir et qui ont un peu cette caractéristique-là. Alors, pas tous et pas tout le temps, mais ce côté, voilà, du panache, de la chance, d'improvisation. Et puis, on ne sait pas trop comment, mais ça finit par passer et c'est assez miraculeux. Donc, ouais, ça, c'est Star-Lord, Peter Quill. Alors, il vient de la Terre. Sa maman est morte d'un cancer, il n'a jamais connu son père, mais il aimerait bien savoir qui c'est. Et a priori, il semblerait que son père vienne des étoiles, justement, parce que c'est un peu ce que lui disait sa mère. Alors, les parents de sa mère la croyaient un peu fofolle de lui raconter que son père venait en fait de la lune et des étoiles, mais lui disait à Peter Quill jeune que son père venait des étoiles. Donc, lui, tout minot qu'il était, il y a toujours cru, et il se trouve qu'il va a priori, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce en tout cas, découvrir sans doute qui est son père dans ce volume 2. Alors il a plein de gadgets aussi, Peter Quill.
Ouais, il a son fameux masque donc qui l'aide à respirer sur les planètes où il n'y a pas d'oxygène, et il a ses
bottes.
Merci.
Ses bottes avec des propulseurs, voilà. Des jetpacks.
Il faut bien et puis pouvoir s'aider, hein, quand même.
Il a son vaisseau, son vaisseau qui est déjà un chouette vaisseau, mais surtout qui est à l'intérieur plein de petits gadgets des années, pareil, 80, 90. On pouvait voir les petits trolls, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces petites figurines qui font 2,5 cm, 3 cm de haut avec des cheveux verts et hirsutes sur la Terre. Ça, c'est des trucs que quand moi j'étais à l'école, donc pas vous, moi, les filles, les mômes s'arrachaient dans la cour de récréation. T'en avais aussi ?
Moi, j'ai pas
connu. J'en avais aussi, moi.
Et voilà, c'est des trolls, et on voit ça dans son vaisseau qui flotte un moment dans l'espace quand il fait un roulé-boulé un peu chelou.
Surtout, il a son baladeur.
Et il a son baladeur.
Parce qu'il aime bien se battre
avec baladeur,
de la...
On dit un Walkman.
Walkman
cassette.
Ouais, il a un Walkman cassette, toujours fixé à sa hanche, parce qu'il aime bien écouter de la musique quand il se bat avec des méchants.
Même tout le temps, il aime bien écouter de la musique tout le temps, et effectivement, ouais. Des tubes de ces années-là.
C'est un méloman.
Ça, c'est... Je ne vais peut-être pas jusque-là. C'est Star-Lord, Peter Quill. Deuxième personnage, on va prendre le couple après, c'est Drax. Alors Drax, lui, c'est le gros balèze. Qu'est-ce qu'il veut se lancer, Marjorie, Eva ?
C'est le gros balèze. Dans les films, probablement différemment dans les comics, Star-Lord, Rocket Raccoon et Groot le rencontrent dans la prison où ils ont été envoyés. Et Drax, il n'a qu'une idée, c'est se venger du gros méchant de l'instant qui est Ronan. Qui n'est qu'un sous-fifre de Thanos le Grand, Thanos gros méchant de plusieurs univers Marvel, donc. Et Drax, il a un peu la rage, voilà. Il a vu toute sa famille se faire massacrer par Ronan, justement. Donc, il s'allie bon gré mal gré avec Star-Lord, Rocket Raccoon et Gamora, mais plus pour se venger qu'autre chose, et puis il finira par rentrer dans le rang.
Il est plutôt costaud, c'est pas une lumière, il se repose toujours torse nu, il y a des espèces de tatouages de scarification extraterrestre sur le torse. A priori, il aime bien se battre plutôt à l'arme blanche, mais s'il faut envoyer un gros missile dans la tronche de quelqu'un, il va le faire quand même. Et puis voilà, c'est tapé et tout cassé. Mais il y a un petit côté doux, un petit côté gros nounours, mais gros nounours quand même, mais nounours un peu.
Voilà. On sent que c'est le gros nounours qu'on a énervé.
Alors Gamora, c'est la partie féminine du Quatuor. Ils sont cinq, c'est ça. Donc c'est pas du tout un Quatuor. Mais voilà, vous aurez compris. Le... Je m'arrête à quatre. Moi, je ne sais pas faire au-delà du Quatuor. Comment on dit à cinq?
Un quintor.
Un quintette, c'est
un
ça.
Quintette.
Du quintette. Voilà, j'avais le début, j'avais pas la fin. On est... Bon, c'est pas grave, on est deux mélomanes, nous aussi. Donc Gamora, c'est une extraterrestre à la peau verte, c'est une teuse qui a plein de talents pour tuer, comme la plupart des teuses. Pareil, elle aime bien se battre à l'arme blanche, elle aime bien aussi les gros fusils, c'est pas un problème. Voilà, c'est la femme fatale, version un peu aventurière et version teuse à gages, mais qui finit aussi dans les mêmes conditions par s'allier un peu avec, avec l'équipe.
C'est surtout la fille adoptive de Ronan. Qu'il l'a en fait.
C'est une des filles adoptives.
C'est une des filles adoptives de Ronan. Alors, par fille adoptive, j'entends qu'il a dû l'enlever quand elle était toute petite. Et du coup, il l'a entraînée à devenir une guerrière plutôt tueuse à gages. Et c'est elle qui l'envoie faire ses bases.
Dans le 1,
besoin.
Il a deux filles adoptives du coup, qui vont s'affronter aussi. Il y en a une qui meurt, je crois, ou qui, en tout cas, part en pièces détachées parce qu'elle est mi-robot, mi. Mais, je sais pas
mais en fait, toutes les filles adoptives de Ronan sont, on va dire, retouchées génétiquement pour être plus fortes. Et Gamora en fait partie.
Alors ensuite, Eva, on a le couple mythique quand même des gardiens de la galaxie, Rocket Raccoon et Groot. Groot. Alors je te laisse nous présenter ces deux truculents personnages, véritables, comment on dit, le grand et le petit, Laurel et Hardy.
Oh là là, niveau cinéma, va falloir revoir
dur,
ça.
C'est
hein.
dur. Laurel et Hardy de l'univers Marvel.
Alors, on a d'un côté Groot, donc c'est le grand un peu. Ben, c'est, il n'est pas très intelligent, puisque de toute façon, il ne sait dire que trois mots. Et
I am Groot.
C'est ça.
Alors en français, c'est traduit par « je s'appelle Groot ».
Voilà, et toujours dans cet ordre. Et du coup, il est quand même très utile, même s'il n'est pas très intelligent. Il sait se défendre.
Mais c'est un arbre. Il faut dire que c'est un arbre.
Voilà, c'est ça. C'est un arbre.
En fait, c'est un arbre. Groot, c'est un arbre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit dans les comics. Hein. C'est, alors, a priori, on ne sait pas trop comment il a été conçu, mais c'est le seul arbre en fait, de la galaxie qui marche et qui parle. C'est un truc un peu
c'est
unique.
C'est un ent.
Ouais, ça pourrait être un ent, mais les ents font des phrases très très longues en entique, alors que Groot, il dit juste « je s'appelle Groot ».
Ouais, oui, mais Groot, il dit « je s'appelle Groot », mais en même temps, il est suffisamment intelligent pour savoir quand on a besoin de lui.
Oui, aussi.
Il est capable de dire « je s'appelle Groot » ou « je s'appelle Groot », mais ça veut dans tous les cas...
ça veut dire la même chose.
Ça veut dire des choses différentes, mais avec les mêmes mots. C'est ça qui est valide. Donc ça, c'est Groot, personnage incroyable, très très fort, avec des pouvoirs surprenants. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'armes, jamais. C'est ses branches qui lui servent d'armes, mais parfois, comme la nature est capable de faire des trucs fantastiques, eh ben, il peut, grâce à son corps et à ses branches, faire des trucs un peu hors du commun. Et il va sauver, d'ailleurs, les autres gardiens dans le 1. On ne vous dit pas comment, pourquoi, mais il va sauver à son corps, défendant d'ailleurs les autres héros. Et il est accompagné de son fidèle, ou c'est peut-être plutôt l'inverse, c'est Groot qui accompagne
Oui, je Rocket pense que
Raccoon.
C'est plutôt ça.
Vous voyez dans le duo hein, Rocket Raccoon Groot un peu le duo Han Solo Chewbacca, c'est-à-dire qu'il y a la grosse brute qui parle pas beaucoup et puis il y a le petit nerveux qui a plein d'idées. Et ben Rocket Raccoon c'est le petit nerveux qui a plein d'idées et Groot c'est la grosse brute. Alors Rocket Raccoon c'est quoi ce machin?
Alors Rocket Raccoon c'est un raton laveur fear shooter. Excusez-moi
first
pour le
shooter.
Merci.
En référence à Han Solo justement. Bravo.
Merci. Et du coup c'est vraiment un raton laveur qui a été génétiquement modifié. Et du coup, il est devenu très intelligent et très bagarreur aussi, à l'occasion.
Parce qu'il reste quand même un raton laveur et donc il est petit, il n'a pas grand-chose comme qualité physique pour lui, donc du coup,
c'est ça.
Il est la niaque, quoi.
Il est très nerveux.
Il peut faire une arme avec tout ce qui lui tombe sous la main. C'est le MacGyver des armes, faut
voilà.
le savoir.
Même une prothèse de hanche, n'importe quoi.
Ah, ça peut le faire, ça peut le faire.
Ça peut le faire. Alors, il a un humour aussi assez acide, c'est-à-dire qu'effectivement, il demande parfois des trucs complètement aberrants juste parce que ça le fait marrer de demander des trucs aberrants. Un peu comme les Ents dont tu parlais, ces arbres hein, dans Tolkien. Il est embêté, Rocket Raccoon, parce qu'il ne va pas trouver de femelle pour s'accoupler, parce que forcément, il ne va pas trouver un raton laveur comme lui, intelligent, puisque c'est un modèle unique, lui aussi. Donc, voilà, ça l'embête un petit peu. Enfin voilà, ça c'est Rocket Raccoon, et il est plutôt très marrant, très nerveux, jamais content et toujours un peu bourrin. Donc voilà un peu l'équipe, vous voyez, c'est des personnalités d'horizons diverses qui ont tous à peu près, c'est ce qu'on trouve en jeu de rôle, il y a plusieurs alignements de personnages, il y a bon, il y a mauvais, et puis il y a loyal, et il y a pas loyal, je cherche le nom de pas loyal, vous pouvez pas m'aider.
Déloyal.
Non, c'est pas déloyal. C'est, voilà,
prêtre.
On retrouvera tout à l'heure. Et ben, eux, ils sont exactement comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt bons, mais ils ne sont pas du tout loyaux. C'est-à-dire qu'ils font bien ce qu'ils veulent, ils ne font d'allégeance à personne, et s'ils peuvent faire une petite bêtise ou deux de temps en temps pour s'enrichir, avec plaisir.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi, s'il y a de l'argent à la clé, c'est mieux quand même.
C'est ça.
À la base, Rocket Raccoon et Groot sont des chasseurs de primes. Très clairement, dans le film en tout cas. Ce sont des chasseurs de primes qui vont à la recherche de Star-Lord parce qu'il a un truc génial sur lui, donc il faut le prendre surtout pour le revendre après très 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 cher.
Alors ce truc génial qu'il a sur lui pour conclure cette émission, qu'est-ce que c'est ? C'est, on l'a dit tout à l'heure, une pierre d'infinité. On le voit un peu dans tous les films Marvel, pardon. Il y a à chaque fois des pierres incroyables. Alors si on commence par le début, la première pierre qui a été trouvée, vous vous en rappelez ?
C'était dans Avenger, me semble. Dans Avengers le premier, puisqu'il y a une pierre d'infinité, la bleue, dans le sceptre de Loki.
Dans le Tesseract.
Ensuite, il y a Vision qui est dans Avengers 2, qui a lui aussi une pierre d'infinité. Mmh. Il y a même sur la tête, carrément.
Tout à fait, la jaune.
La pierre de la vie.
Dans Thor 2, il y a effectivement les elfes noirs qui font joujou avec une pierre rouge.
Oui, alors celle-là, je ne me souviens plus du nom.
Du coup, dans Les Gardiens de la Galaxie, il y a la violette.
Ouais, et il manque donc la verte. Mais je crois que la verte, on la voit à un autre moment. Je ne sais plus.
Alors, si ma mémoire est bonne, il y a 7 pierres d'infinité, non ?
Non, il y en a 5. Parce qu'en fait, ça se met sur le gant d'infinité. Et gant d'infinité,
il y en a 5,
c'est pour les 5 doigts. Et ce gant d'infinité, eh bien, c'est l'arme ultime qui permet de remodeler la galaxie comme on l'entend. Et c'est l'arme que cherche Thanos, qui est le grand méchant qu'on voit dans les scènes post-génériques. Donc, c'est ce qui fait le lien entre tous ces films. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans Le Gardien de la Galaxie 2 ? Eh bien, on vous laisse aller voir au cinéma pour voir tout ça. Quand est-ce que Thanos va se taper contre toutes les autres ? Eh bien, a priori, c'est dans Avengers.
Non, c'est dans c'est dans Thor Ragnarok, qui va sortir très prochainement également.
Alors, ça ne va pas être juste le combat avec Thanos ?
Dans Thor 3, le gros méchant, gros spoil, c'est Thanos.
D'accord.
Et dans... c'est Thor Ragnarok, puisque Ragnarok, dans la légende
viking... Et dans le prochain Avengers qui va sortir ?
Dans le prochain Avengers qui va sortir, il n'y a pas de prochain Avengers qui va sortir.
Il n'y a pas Avengers Infinity ou un truc comme ça ?
Non, c'est Thor Ragnarok. Et d'ailleurs, dans la légende viking, Ragnarok signifie fin du monde. Donc, c'est assez prémonitoire.
Elle a toutes les infos, Marjorie.
Et
c'est,
oui,
c'est
suis
terrible.
Incroyable.
C'est terrible.
Je mérite ma place dans Les Gardiens de la Galaxie.
En tout cas, si vous voulez aller voir ce film, Le Gardien de la Galaxie, volume 2, on vous y encourage. Il peut y avoir quelques petites grossièretés qui s'échappent et tout n'est pas toujours ultra moral. Ça se finit bien à la fin et les héros sont des vrais gentils. Mais voilà, c'est pas un film qui est interdit au moins de 18, clairement, ni au moins de 16. Mais après, à vous de juger sur l'âge de vos enfants, si vous voulez les emmener, ils passeront un bon moment. Mais effectivement, il peut y avoir un peu parfois de vulgarité. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les lumières dans la salle se rallument, à ce que l'écran s'éteigne, parce qu'il n'y a pas, non pas une seule ni deux scènes après le générique, mais bien 5 scènes post-générique, ce qui est absolument énorme. Mesdames, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.
Salut.